C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec l'historien Johan Chapoutot qui publie Le Grand Récit aux Presses Universitaires de France. Son regard d'historien sera évidemment précieux vu la semaine écoulée. À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, au téléphone sonne, on se demandera si le Covid nous a pas rendus encore plus casaniers. Une étude du Crédoc montre que le vendredi soir idéal des Français, c'est soirée pizza à la maison. Une tendance lourde qui s'est encore accentuée avec le télétravail, le succès des séries et les livraisons à domicile. On pourrait appeler ça la culture du cocon. Alors dites-nous ce que vous en pensez au 01 45 24 7000. Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, deux figures du journalisme qui luttent pour la sauvegarde de la liberté d'expression dans le monde. La Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Muratov ont reçu tous les deux leur prix Nobel de la paix aujourd'hui à Oslo. Deux discours très forts, on l'entendra, qui fustigent notamment le rôle des géants du net dans la désinformation. À suivre aussi Julian Assange, de nouveau sous la menace d'une extradition vers les États-Unis. La France qui s'apprête à ouvrir les archives sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance, avec à la clé la possible confirmation de cas de torture au sein de l'armée française. On parlera de l'inquiétude autour des soirées clandestines après la fermeture des discothèques pour un mois. Les intempéries en France, des pluies intenses sur les Pyrénées et de la neige aussi en abondance sur la Savoie avec des villages coupés du monde, on l'entendra. Et pour finir, le théâtre du Châtelet à Paris qui renoue avec la comédie musicale.
France Inter. Elle risque la prison et lui a enterré plusieurs de ses collègues.
D'un côté, Maria Ressa, journaliste philippine, 58 ans, cofondatrice du site Rappler, très critique contre le président philippin Duterte et sous la menace de 7 procédures judiciaires dans son pays. Et de l'autre, Dmitri Muratov, rédacteur en chef de Novaya Gazeta, l'un des rares journaux russes indépendants et dont 6 des membres ont été tués ces 30 dernières années. Deux incarnations de la liberté de la presse, tous les deux prix Nobel de la paix, donc. Ils ont reçu leur prix aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Oslo. Une cérémonie en petit comité, mais ponctuée de deux discours retentissants, Eric Biegala.
Maria Ressa a essentiellement poussé les feux d'une charge contre les réseaux sociaux, les technologies de l'information, qui n'ont qu'un rapport incertain avec l'information, justement.
L'écosystème de notre information est une pièce à deux faces. D'un côté, il y a les journalistes. De l'autre, il y a la technologie de l'information et ses pouvoirs quasi divins. Elle a permis au virus du mensonge d'infecter chacun d'entre nous. Elle fait sortir de l'ombre nos peurs, nos colères et la haine, ouvrant ainsi la voie à la montée en puissance de régimes autoritaires et de dictatures partout dans le monde.
Exemple tout trouvé en Russie, rebondit quelques minutes plus tard Dmitri Muratov, l'autre récipiendaire de ce Nobel de la paix. L'information manipulée peut servir à tous les régimes et même pousser à la guerre.
Dans notre pays, et pas seulement, il est commun de penser que les politiciens qui veulent éviter les bains de sang sont des faibles, tandis que ceux qui menacent le monde sont de vrais patriotes. Le pouvoir promeut activement l'idée de la guerre. Ce marketing agressif et belliqueux entre chez les gens et ils commencent à penser que la guerre est acceptable.
La dernière fois qu'un journaliste a gagné le Nobel de la paix, c'était en 1935. Karl von Ossietzky avait révélé le programme de réarmement de l'Allemagne nazie. Il n'a jamais pu venir chercher son prix à Oslo. Il est mort dans un camp de concentration.
Eric Biegala, rappelons pour terminer deux chiffres sur ce dossier. Au 1er décembre de cette année, au moins 1636 journalistes avaient été tués sur la planète depuis 20 ans et 293 reporters sont actuellement derrière les barreaux. Jamais le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde n'avait été aussi élevé.
Lui est menacé de 175 ans de prison aux États-Unis.
Julian Assange vient de perdre une bataille importante devant les tribunaux britanniques. Le fondateur de Wikileaks est sous le coup d'une possible extradition vers les États-Unis, qui lui reproche une fuite massive de documents classés secret défense. En première instance, les magistrats anglais avaient refusé cette extradition. Décision annulée en appel aujourd'hui par la Haute Cour. Il ne reste plus qu'un recours possible à Julian Assange devant la Cour suprême britannique. Ses proches sont donc très inquiets. Laura Calmus était ce midi devant la Haute Cour de Londres.
Devant la Haute Cour de justice de Londres, de nombreuses associations de défense de la liberté de la presse se sont réunies, sous le choc, accusant encore le coup. Sa fiancée et mère de ses deux enfants, Stella Morris, a déjà fait savoir que Julian Assange ferait appel.
Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener. Et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que ça signifie de vivre dans une société libre, de ce que ça signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que ça signifie pour les journalistes de faire leur travail, sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison.
Il a en effet une toute dernière carte à jouer. Il peut saisir la Cour suprême britannique, mais c'est une victoire majeure pour Washington, même si ce n'est pas encore la fin de cette bataille juridique. C'est la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, qui aura le dernier mot. La demande d'extradition vers les États-Unis avait été rejetée une première fois le 4 janvier dernier. À l'époque, le juge avait estimé que Julian Assange risquait de se suicider s'il se retrouvait dans une prison américaine. Alors pendant l'audience, l'avocat représentant le gouvernement américain a assuré que Julian Assange recevrait tous les soins cliniques et psychologiques nécessaire. S'il est extradé vers les États-Unis, Julian Assange risque 175 ans de prison pour espionnage et piratage informatique. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Là aussi, ce sont des documents classés secret défense depuis des décennies. Les archives policières et judiciaires de la guerre d'Algérie que la France a donc décidé d'ouvrir avec 15 ans d'avance. Décision du gouvernement français afin de tenter d'apaiser les relations encore très tendues avec Alger. Décision qui pourrait conduire à la confirmation de plusieurs cas de torture, commis notamment par l'armée française. C'est l'intérêt du pays que de le reconnaître, a déclaré ce matin la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors qu'en pensent les associations d'anciens combattants et les proches des victimes de cette période historique? Mathilde Dehémy leur a posé la question.
C'est une ouverture d'archives anticipées que ne craint pas Guy Darmanin, appelé en Algérie. Il préside désormais à 82 ans la FNACAL, l'une des principales fédérations d'anciens combattants.
Pas du tout, bien au contraire. On entend qu'il y a eu des exactions, des meurtres, qu'il y a eu des viols, aussi de la torture. Il faut ouvrir des archives, savoir ce qui s'est passé, quand et où, pour l'armée française, mais aussi pour le côté algérien. Donc, des deux côtés.
Côté algérien, on attend toujours l'équivalent du rapport Stora et un meilleur accès aux archives. Beaucoup de questions restent sans réponse pour les deux pays sur les disparus, les lieux de rétention, les ratonnades. Il y a 3 ans, Emmanuel Macron avait promis l'accès aux documents, notamment sur la mort de Maurice Audin, des archives difficiles d'accès. Cette ouverture va plus loin, se félicite Pierre Mansa, qui préside l'association Josette et Maurice Audin.
C'est une avancée extrêmement importante, qui était attendue depuis longtemps. Et en plus, l'ouverture irait jusqu'en 1966. Ça permet de traiter les enquêtes sur l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, ceux qui refusaient l'indépendance de l'Algérie et qui ont commis beaucoup de meurtres. Donc c'est un volet indispensable pour la compréhension de la guerre d'Algérie qui peut jouer un grand rôle dans le débat autour de nos mémoires.
Pour connaître le détail des fonds concernés, il faudra attendre l'arrêté interministériel.
Mathilde Dehémy, c'est le nouvel objectif sanitaire du gouvernement, vacciner 20 millions de Français avec une dose de rappel d'ici Noël. Pas question en revanche de revenir sur le 15 décembre, la date butoir pour les plus de 65 ans, au-delà de laquelle le pass sanitaire ne sera plus valable. Les jeunes, eux, ont vécu hier soir une dernière soirée en boîte de nuit avant plusieurs semaines. Fermeture des discothèques pour 4 semaines afin de lutter contre la 5e vague épidémique. Colère des patrons qui s'inquiètent du manque à gagner, mais aussi des risques de soirées clandestines, comme lors du premier confinement. Les plateformes de location de leur côté s'engagent à prendre toutes les mesures pour les éviter. Les précisions de Philippe Lefebvre.
Pour les patrons de discothèques, le manque à gagner sera énorme, mais ce qui les inquiète le plus, c'est de revivre la situation de 2020 en plein confinement. C'est le cas de Patrick Malves, le président du syndicat national des discothèques.
On pousse les gens à aller dans des soirées privées et dans des parties organisées comme ça, sans aucun contrôle, avec le développement du virus. C'est une inconséquence folle.
En 2020, les forces de l'ordre avaient mis fin à plus de 350 soirées clandestines, se déroulant parfois dans des boîtes de nuit, mais aussi dans des tunnels, des usines désaffectées ou encore des maisons louées sur les grandes plateformes comme Airbnb. L'entreprise américaine a d'ailleurs mis en place des filtres rendant impossible, sur le papier tout du moins, les réservations pour ce genre de soirée. Mais Dominique Debuire, le président de l'Union nationale des locations de vacances qui regroupe la plupart de ces grandes plateformes, veut aller plus loin.
S'il y a des hébergeurs un petit peu laxistes et pour lesquels il y a une fâcheuse tendance à ce que des événements de cette sorte se reproduisent, eh bien c'est à nous de les identifier et puis de les éliminer de nos plateformes.
Enfin, il faut le rappeler, les organisateurs de ces soirées risquent toujours 1 an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui, et les participants une amende de 135 euros.
Philippe Lefebvre, au chapitre contrôle sanitaire, la SNCF, elle s'engage à multiplier justement les contrôles des passes en gare et incite les voyageurs à le présenter en ligne en amont fonction du trajet. L'Allemagne, pour sa part, a validé aujourd'hui l'obligation vaccinale pour le personnel médical avant une obligation pour toute la population attendue en début d'année prochaine. Le chancelier allemand lui a réservé sa première visite à l'étranger, à la France, Olaf Scholz et Emmanuel Macron, qui ont affiché leur convergence de vues solide. On y reviendra dans le journal de 19h. La relation entre Paris et Berlin, donc au beau fixe, mais pas entre Paris et Londres. Paris qui donne jusqu'à ce soir aux Britanniques pour accorder les dernières licences de pêche. La France en réclame encore une centaine. L'Union européenne réfute toute forme d'ultimatum, mais promet de faire aboutir les discussions aujourd'hui.
Les Pyrénées noyées sous des trombes d'eau.
Vigilance rouge au cru dans les Pyrénées-Atlantiques, en effet, et dans les Landes, entre les pluies et les fontes de neige. Les cours d'eau débordent notamment sur la Nive, à Bayonne. Pas de victimes, mais beaucoup d'interventions de pompiers. Situation compliquée également à cause de la neige en Bourgogne. De nombreux camions en portefeuille sur l'A38 ce matin, mais la situation est revenue progressivement à la normale. Et puis en Savoie, de fortes chutes de flocons étaient attendues aujourd'hui, au point que le préfet de Savoie demande à tous les usagers de la montagne de décaler leur arrivée dans les stations de ski ce week-end. 40 000 véhicules attendus d'ici dimanche, dans les stations de la Tarentaise notamment. La Savoie, où certains villages sont presque coupés du monde, comme le village de Saint-Colomban-des-Villars, 2 mètres de neige cumulés. Écoutez Christian Frasson-Botton, il est adjoint au maire.
La commune est environnée de très hautes montagnes qui dominent le village. Ce sont des couloirs qui arrivent donc jusque sur les routes communales, d'où le danger. La situation est critique. Il y a eu vraiment une accumulation qui a produit donc dans la commune de Saint-Colomban-des-Villars, qui se situe à 1100 mètres, un très fort risque d'avalanche naturelle. Donc le maire de la commune a pris donc la décision de déclencher ce plan communal de sauvegarde. Les enfants d'école intercommunale de la vallée donc ont rejoint leur famille pour éviter de les exposer et surtout pour éviter les déplacements. Il y a vraiment danger.
Voilà, Christian Frasson-Botton, adjoint maire de Saint-Colomban-des-Villars. Lui est aussi discret qu'efficace à la sortie d'une mêlée. Antoine Dupont, sacré meilleur joueur de rugby du monde aujourd'hui. Le demi de mêlée toulousain de 25 ans, troisième français à inscrire son nom au bas de ce prestigieux titre.
Et lui aurait pu être champion du monde de la comédie musicale.
Oui, j'ai nommé Cole Porter, l'un des plus célèbres compositeurs américains de l'entre-deux-guerres, mis à l'affiche du théâtre du Châtelet à Paris, qui renoue avec Broadway. Cole Porter in Paris raconte les années parisiennes de Cole Porter dans les années 20. Stéphane Capron a pu assister aux répétitions.
C'est après un flop à Broadway en 1916 que Cole Porter décide de quitter les États-Unis pour s'installer à Paris. Il y découvre les années folles et son foisonnement culturel. Le metteur en scène Christophe Mirambeau est l'un des spécialistes de Cole Porter en France.
C'est vraiment l'un des plus parisiens des Américains. Il était vraiment l'une des égéries, l'une des coqueluches de la Café Society parisienne, c'est-à-dire ce club assez riche d'émigrés américains installés à Paris entre deux guerres et qui constitue une micro-société américano-française qui a beaucoup d'argent.
Cole Porter était multiple, alors il n'y a pas un, mais 3 chanteurs pour l'interpréter, Richard Delestre, Yoni Amar et Mathieu Michard.
Moi je suis plus la facette sentimentale, sa dualité dans la vie, d'être marié, mais d'avoir en fait cette vie cachée, homosexuelle, etc.
Moi, je suis plutôt sa partie amant-vie, amoureuse, bisexuelle, le côté débridé. Mathieu serait plutôt sa partie musicien.
Comme en plus, je suis au piano, ce qui fait que ça fait le mec qui est concentré, qui est dans son monde et qui crée à chaque fois.
Cette comédie musicale est une idée des Frivolités parisiennes, un ensemble musical qui met en lumière le répertoire lyrique français et qui a choisi cette fois de montrer comment la France a pu influencer l'un des plus grands musiciens américains.
Take me back to Manhattan, take me back to New York, I'm just longing to see once more my little home on the 100th floor.
Voilà, comme il chante bien, Cole Porter in Paris au Théâtre du Châtelet à Paris, c'est à partir de demain soir et jusqu'au 1er janvier, retrouvé en longueur demain dans Coulisses à 6h53 dans le 6-9 du week-end.
Merci beaucoup Sébastien Legénie, on entendait les intempéries dans votre journal, on va prendre des nouvelles du temps dans un instant.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Le temps sera encore très agité ce soir et cette nuit.
Oui, après une relative accalmie, on a encore des pluies soutenues près des Pyrénées. Elles alimentent les cours d'eau. Des crues importantes sont en cours, notamment sur le bec du Gave, placé en vigilance rouge par les services de Vigicrue. Dans le secteur de Peyrehorade, le pic est attendu en fin de soirée. La neige persiste sur les Pyrénées autour de 1000 mètres cette nuit. Le très fort risque d'avalanche aussi jusqu'en matinée de demain. Et puis sur le nord des Alpes, là aussi très fort risque d'avalanche et de la neige jusqu'à très basse altitude sur les Alpes.
Et demain, ça ira mieux, promis ?
Ça s'arrangera doucement. Alors les pluies commenceront à faiblir en cours de journée près des Pyrénées. La neige remontera vers 1800 mètres l'après-midi. Sur les Alpes, il ne restera que quelques flocons dans l'après-midi. Et puis on a quand même une perturbation qui arrivera par l'ouest avec beaucoup de nuages, mais vraiment seulement quelques gouttes. Des éclaircies du centre-Val de Loire au nord de la Seine, du soleil et du vent en Méditerranée. Encore quelques gelées dans l'est le matin, donc attention sur les routes, ça pourrait glisser. Et puis l'après-midi, 4 à 9 degrés et 9 à 14 sur l'ouest et en Méditerranée.
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Elodie Calac de Météo France.